C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Il y a un article dans la presse qui relate que les scientifiques montréalais, que des scientifiques montréalais seraient à la pointe d'une idée vieille comme la drogue et qui refait surface depuis quelques années, à savoir que des drogues hallucinogènes aideraient à traiter des maladies psychiatriques. On en jase avec le doc Michael Bensoussan. Salut Mick.
Absolument, bon matin.
De quelle drogue on parle, Michael?
On parle du LSD. Et moi, je n'ai rien pris avant de venir, d'accord? je vais vous faire ça nature avec mes heures de sommeil, mais trop peu d'heures de sommeil. En fait, le LSD, qui veut dire l'acide lysergique diéthylamide, c'est une drogue qui a été découverte dans les années 30 en Suisse par un scientifique fou.
Ouais.
Il était fou. Qui s'appelle Albert Hofmann. En fait, c'est une drogue qui se développe à partir de l'ergot, des décoctions d'ergot. Et l'ergot, c'est un parasite qu'on peut trouver sur certaines plantes.
Donc, entre autres.
Par exemple, il y a un ergot sur le seigle, mais il y a de l'ergot sur d'autres plantes, mais ça se ressemble. Et donc, l'effet psychédélique du LSD est complètement dingue. Évidemment, le LSD est une drogue psychotroque, psychoactive, qui donne des hallucinations, des hyperstimulations. Les hyperstimulations sont auditives, visuelles, mentales. Donc, l'utilisation récréative du LSD donne des trips qui sont extrêmement puissants et extrêmement dangereux. Ne faites pas ça chez vous.
Mais maintenant, dans cette étude-là, on ne parle pas du tout du trip de LSD perso, on parle du microdosage.
Alors, le microdosage, exactement. Donc, ça veut dire que le microdosage, c'est quoi? C'est environ 10 fois moins et encore moins de substances, et je dirais de posologie, si on faisait un comparatif par rapport à la dose de médicaments. 10 fois moins, qu'est-ce qui se passe quand on prend vraiment des toutes petites doses de ce genre de drogue psychoactive? Ça fait très longtemps, depuis même les années 50-60, qu'on s'est rendu compte que ça avait très probablement un effet bénéfique. Quelle situation? Dans des situations où il y a des pathologies mentales, comme la dépression chronique, par exemple le trouble bipolaire, ou comme les gens qui ont des psychoses, justement. Quand on donne des toutes petites doses, et l'étude dont parle la presse, et qui est en fait une étude qui pour l'instant est menée à McGill et au CUSUM sur des souris, ce sont des doses qui sont données, on s'est rendu compte que ça active les neurones à sérotonine. Donc ça, c'est ceux qui sont impliqués. Voilà, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la joie, c'est là-dessus qu'agissent les antidépresseurs. Et si tu montes encore un peu la dose, ça agit sur les neurones à dopamine. Alors ça, c'est les neurones justement qui sont ceux de la stimulation, de l'imagination, etc.
Parce que dans le fond, une drogue, c'est comme j'ai l'impression, moi, que c'est imprécis comme traitement, mais pas du tout. En fait, tu comprends-tu ce que je veux dire?
Dépendre de chaque individu.
Une Tylenol, ça fait un effet X, mettons, mais un joint, pour moi, comme tu dis, ça va plus. C'est plus aléatoire, non?
Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont des pathologies et qui, sans se rendre compte, justement, prennent des drogues pour équilibrer leur pathologie.
Ce médicament,
mais la différence avec un médicament où, quand tu prends un Tylenol, tu sais que dans une pilule, il y a très exactement 375 mg ou 500 mg de Tylenol. Quand tu vas prendre un joint ou quand tu vas prendre une goutte ou un buvard qui va contenir de l'acide, etc., du LSD, puisque c'est de lui qu'on parle, tu n'as aucune espèce de crise d'idée de ce que tu vas prendre comme posologie de médicaments, puisque c'est fait dans un laboratoire souterrain quelque part en Indonésie. C'est ça qui était très difficile à doser et c'est ça qui est très difficile à mettre en place pour justement des études et trouver des effets bénéfiques.
Mais justement, là, est-ce que si on arrive à un stade où on confirme que c'est bénéfique, ça va-tu devenir légal? Genre, il va y avoir du LSD à la pharmacie?
D'abord, il faut rappeler un peu l'histoire du LSD, c'est très drôle. C'était légal. À partir du moment où ça a été inventé, c'était légal jusqu'au milieu des années 70. Et à un moment donné, avec le mouvement hippie, c'est devenu tellement populaire et tout le monde était tellement défoncé dans la société américaine que c'est devenu une drogue et jusqu'à date, ça allait rester. Mais pendant des dizaines d'années, c'était légal. Et dans les années 50-60, les psys américains utilisaient déjà du LSD par méthode essai-erreur pour traiter des pathologies, mais tout ça est resté très secret, très flou, et ça n'a jamais passé le stade de devenir un traitement.
Et ce matin, Michael, tu nous en as apporté pour qu'on teste.
Absolument. Voici la dégustation. La dégustation commence pendant la musique. On va se retrouver après la toune et on va voir si les auditeurs vous trouvent changer la guerre.
Mais sinon, plus sérieusement, vous avez une question pour le doc, Michael Bensoussan. Gênez-vous pas pour nous la texter.
De tout azimut.
Sur le 96.9. On va essayer de lui répondre. On en a déjà plusieurs à répondre, mais gênez-vous pas pour les envoyer, c'est toujours bienvenu.
Le podcast Debout les comiques.
Juste avant de répondre à vos questions que vous posez au doc Michael Bensoussan, on va conclure avec le LSD utilisé comme médicament. Comment ce serait quoi le processus exact? Et est-ce que d'autres drogues pourraient être utilisées, Michael, dans des fins de
thérapeutiques?
Ouais.
En fait, les psys ont déjà identifié que ce qui était très positif, c'est que le microdosage de LSD, ça allait agir sur le clivage et l'anxiété, ce qui sont les deux phénomènes cérébraux et psychiatriques qui empêchent au psy d'accéder à ton cerveau pour te traiter.
Okay.
Donc ton cerveau devient plus souple, plus empathique, plus ouvert.
On ouvre la
Donc
porte.
Ça ne peut venir qu'en complément d'une psychothérapie. Ces microdosages-là, les psys voudraient utiliser ça pour donner l'accès au cerveau pour faire la psychothérapie adéquate. C'est pour ça que tous les auditeurs qui nous écoutent et qui font les microdosages dans leur coin, sans une psychothérapie qui vient avec, m'excuse, mais ça ne sert pas à grand-chose. Okay. Ça peut être récréatif, ça peut être le fun.
Champignons
ça...
magiques, voilà. Mettons, et autres.
Et alors, ceci vaut pour d'autres substances. Aujourd'hui, on n'a parlé que du LSD. Mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur la mescaline, sur les champignons hallucinogènes, la kétamine, name it.
Ça les Cheerios.
Les Cheetos. Ouais.
Mais tu vois, c'est tout du chimique, voilà, sauf le
ça.
Champignon.
C'est ça.
Moi, c'est tout du chimique, là. Ouais, non, sauf le champignon.
Le LSD, encore une fois, tout ça part d'un dérivé de plantes, etc. C'est semi-naturel.
Il y a Roxane, docteur, qui nous demande, j'ai des grosses douleurs partout dans le dos, surtout dans le bas et au niveau du cou et des omoplates. Oui. Aucun médicament fait vraiment effet.
Oui.
Je passe un pot de Tiger Balm par mois. Je ne sais plus... Qui, quoi faire, aller voir quoi.
Alors, le trajet que tu viens de me décrire des épaules et des omoplates, tu iras regarder sur une planche d'anatomie, ma chère Roxane. Il s'agit des muscles trapèzes et grand dorsal, qui sont des muscles qui sont très douloureux quand on se bloque au niveau du rachis et de la colonne vertébrale. Donc, d'abord, des anti-inflammatoires peuvent t'aider. Et si tu veux aller voir un professionnel qui t'aidera, je te conseille, selon ton église, d'aller voir soit un ostéopathe, soit un chiropracteur.
Pourquoi selon l'église?
Ben, selon les gens qui croient à l'ostéopathie.
Ouais, les gens. C'est ça,
ceux qui aiment bien que ce soit doux et long avec un peu de musique et ceux qui aiment que ça craque, claque, claque, claque comme chez le chiro. En tout cas, j'y vais pas plus, j'ai déjà eu des problèmes avec les chiro ici.
Alors quelqu'un qui d'ailleurs ne sait pas, n'a pas mentionné son prénom, si vous nous écrivez au 96-99, écrivez-nous votre nom, c'est plus facile pour nous de vous saluer ou de poser votre question avec le bon
nom.
Et voilà. Alors, est-ce qu'une personne avec une biopsie positive à la maladie cœliaque peut avoir une prise de sang négative et être cœliaque malgré tout?
Oui, toutes les composantes sont possibles. Dans ce cas-là, il va falloir faire des examens complémentaires qui sont des analyses de sang et qui sont des analyses biologiques. La personne qui nous écrit ça a besoin d'une consultation et d'un suivi avec un gastro-entérologue no-brainer. Mais quand la biopsie du petit intestin est positive et dit que l'intestin est magané par le gluten, ça veut dire que la maladie cœliaque est là et qu'il faut commencer la diète sans gluten et faire suivre ça par un docteur jusqu'à ce que l'intestin cicatrise et redevienne normal, ce qui est le but de la diète sans gluten.
Il y a quelqu'un qui nous écrit, j'ai bu un Red Bull pour la première fois, résultat étourdissement et chaleur. Est-ce que c'est normal?
Mais c'est normal. Mais oui. Reprends dans ta trash bin la canette de Red Bull et regarde la composition de ce produit. Tu vas voir qu'il contient de la caféine, de la taurine, une douzaine de vitamines, que des stimulants, que des choses qui sont supposées te booster, faire monter ta tension artérielle et te transformer en une version sous cocaïne de toi-même. Donc, le fait que tu aies ressenti des bouffées de chaleur, des palpitations...
Est-ce que ça veut dire que ça va aller en augmentant?
Ça veut dire que ça le refera à chaque fois.
Okay.
Et ça veut dire que tu ne tolères pas très bien le Red Bull et que ça n'est pas très bon pour ta santé.
Mais ton corps va s'habituer à un moment donné.
Le corps, à un moment donné, va s'habituer. Mais encore une fois, les gens qui vont augmenter la quantité de Red Bull vont augmenter la quantité de sucre et les effets potentiellement négatifs sur la santé.
Enfin, on ne veut pas qu'ils s'habituent. Mais oui. Une dernière question de Jade avant le saviez-vous que?
Absolument.
Okay? Elle a un garçon de 1 an qui vomit après chaque yogourt.
Oui.
Mais pourtant, il vomit pas le lait, le fromage, ni aucun autre produit laitier. Elle dit plus jeune, il y avait une réaction à la protéine bovine. Bref, est-ce que tout ça a un lien? Comment on explique?
Alors, ça peut avoir un lien parce que ça dépend du yogourt. Encore une fois, il faut regarder la composition parce que quand on achète des produits ultra transformés comme les yogos au supermarché, ça peut tout à fait contenir des protéines animales, notamment les yogos qui sont gélifiés et qu'on utilise de la gélatine pour les rendre gélifiés. Donc, si le gamin est un intolérant aux protéines bovines, il peut y en avoir dans le yogourt.
Okay.
Ah, donc ça nécessite...
Ça serait pas les produits laitiers, donc
non,
le,
non,
le
exactement. Non. Il peut y avoir, encore une fois, le yogourt, on peut regarder la composition, on peut être bien surpris qu'il y a bien d'autres affaires que du lait. Mais ce qu'on peut soupçonner surtout, c'est cet enfant de 1 an, c'est qu'il peut tout à fait avoir une gastrite et du reflux. Donc il faut aller consulter, il faut aller voir le médecin et essayer de prendre des médicaments anti-reflux pour voir si ça améliore ce petit enfant pendant au moins un mois.
Et Michael, tantôt tu as parlé des ostéos, des chiros. Oui. Là, il y a les physios qui veulent que tu les mentionnes.
Oh mon Dieu, les physios, absolument.
Ordre professionnel, c'est ce qu'Eliane
souligne. Arrête d'oublier déjà.
Aucun souci avec les physios. Les physios, on vous aime au 96.
Ouais.
Est-ce que tu as un saviez-vous que en terminant, Michael?
Absolument, j'ai un saviez-vous que. Martin, saviez-vous que aujourd'hui je suis en grève? Non pas parce que je suis français, bon je suis français donc évidemment je suis en grève,
toujours un peu,
ça évidemment, mais je suis en grève parce que, mon Dieu, vous êtes allé au Canadian Tire sans moi. Elle se passait toute une nuit, en plus quand j'ai regardé les vidéos, c'était mon Canadian Tire. Je me suis dit, ça se peut-tu, en plus ils vont dans mon Canadian
dans
Tire.
Dans quelle allée attends,
où j'y vais tous les dimanches, je connais chaque allée, chaque endroit. Vous êtes allé là-bas, eh ben c'est bien fait pour vous, vous êtes blessé, vous aviez même pas votre médecin avec vous pour vous aider. Si vous m'emmenez pas la prochaine fois, je vous ferai une grève pendant toute une
chronique. C'est quoi ton allée préférée?
Mon allée préférée, c'est l'allée avec, vous savez, toutes les petites vis qu'on achète, parce que comme ça, on en a pour le bois, on en a pour le métal, on en a pour le plâtre.
Mais
et puis,
oui,
en bout de ligne, quand on en cherche une, on l'a toujours perdue. Alors, on retourne au Canadian Tire.
Un homme de vis.
Je vous conseille le LSD pour régler ça.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Emmanuel Macron, qui a été réélu hier à la tête de la France, c'est un deuxième mandat pour celui qui a battu la candidate de droite, Marine Le Pen. Et on en jase de cette élection-là, hautement médiatisée, avec notre expert en politique internationale, Loïc Tassé. Salut Loïc!
Salut. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous. Est-ce qu'on peut dire que la France, mais aussi toute l'Europe, pousse un gros soupir de soulagement?
Oui. Sauf les électeurs de Marine Le Pen, évidemment.
Ouais, ouais.
Il y a quand même 42% des Français qui ont voté pour elle. Et c'est une grande progression. Parce qu'aux dernières élections, il y a 5 ans, il y avait 33% des gens qui avaient voté pour elle. Donc, elle est en progression. Et c'est assez intéressant, quand on regarde la France actuelle, de voir qu'elle est quand même pas mal divisée, hein, toujours. Tu regardes le résultat. Puis si on intègre à ça les gens qui se sont abstenus, là, ça va changer les chiffres, parce que les chiffres réels, comme je t'ai dit, c'est les chiffres officiels, c'est à peu près 42-58 en faveur de Macron. D'accord.
Okay.
Mais si on compte tous les bulletins, si on compte les gens qui se sont abstenus, ceux qui ont annulé leur vote, etc., grosso modo, on se retrouve avec 35% des gens qui ont voté pour Le Pen, 35% des gens qui ont voté pour Macron et 30% des gens qui se sont abstenus.
Okay. Ah oui, je comprends.
Et ce taux d'abstention-là, là, qui est gigantesque, on va se le dire, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? Est-ce qu'on lit de la protestation?
Il y a de tout. Il y a des gens qui veulent pas y aller, qui se disent, bof, oui, il faut que j'y aille, puis j'ai pas le temps d'y aller, ou c'est trop long, et t'as des gens comme ça. T'as des gens qui ont jamais été votés, qui s'intéressent pas à aller voter, donc je minimise un petit peu l'abstention. Mais t'as aussi des gens qui savent pas pour qui voter.
Ben, c'est sûr, parce que...
Ni Le Pen, ni Macron, pour des raisons totalement différentes. Ils trouvent que Le Pen est beaucoup trop à droite, qu'elle comprend pas l'économie, elle est... trop contre l'immigration, il l'aime pas. Puis il y en a qui aiment pas du tout Macron parce que lui, ils disent qu'il est trop technocrate, il est du côté des banquiers, il est du côté des riches, il l'aime pas non plus. En fait, c'est les gens qui votent Mélenchon ont, semble-t-il, le moins voté. Et Mélenchon, ben c'est la révolution de gauche.
Ouais.
C'est des gens qui sont petit peu rêveurs et qui sont très très déçus parce que Mélenchon est arrivé tout proche d'être le deuxième. Il a presque battu Marine Le Pen au premier tour. Il s'en est fallu 1 ou 2%. Puis ces gens-là se disent, ah zut, nous on aurait aimé voter pour Mélenchon. Alors, pour qui on va voter? Pour Le Pen, on l'aime pas. Pour Macron, on l'aime pas. Bon, finalement, ils ont voté Macron, quand même, pour la plupart d'entre eux, quand ils ont été votés. Mais il y en a une grande partie qui s'est abstenue.
Mais Loïc... On parle d'abstention, on parle de gens qui votent pour Marine Le Pen, on parle de gens qui votent pour Emmanuel Macron, mais c'est plus de 41% pour Marine Le Pen, donc c'est énorme.
Oui.
À quel point la France est divisée, puis ça va-tu changer quelque chose, ça?
Oui, ça va changer quelque chose aux législatives en juin.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on a une autre élection qui arrive pour élire les députés à l'Assemblée nationale, et c'est encore deux tours. Mais là, c'est plus la même chose parce que c'est réparti autrement, c'est réparti dans 92 départements. Et auparavant, aux dernières élections il y a 5 ans, Marine Le Pen était arrivée première dans 3 départements.
OK. Mm.
Cette fois-ci, elle est arrivée première dans 33 départements.
Oui, c'est ça.
Donc ça veut dire que, évidemment, c'est long, 2 mois, on ne sait pas ce qui va arriver d'ici là.
Mais c'est un mouvement politique qui est là pour rester et qui va compter là, dans l'avenir. Ça veut dire
qu'Emmanuel Macron a de fortes chances de se retrouver avec un gouvernement minoritaire.
Oh.
Il va être obligé de composer soit avec Mélenchon et puis les Insoumis, soit avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Moi, je doute que son parti à lui, La République En Marche, arrive à avoir une majorité de députés. Donc, on va avoir un gouvernement fort probablement minoritaire en France. Ça va être très difficile pour lui de gouverner.
Ouais.
Puis imagine, les gens de Mélenchon, s'ils s'allient à Le Pen, c'est un peu des purs et durs, ils vont être très très déçus, ça va être mauvais pour le parti. Mais à l'inverse, si Macron gouverne avec Marine Le Pen, ben là, ça va aider beaucoup Marine Le Pen, ça va lui donner une nouvelle légitimité, puis ça va au contraire, ça risque de dégoûter des gens qui sont
encore
avec Macron.
Mm-hmm.
Donc, pour les 5 prochaines années, ça ne sera pas facile là, du côté de Macron.
Oh non.
Comment il va faire? Il a dit « Je vais être le président de tous les Français », mais comment il va faire ça?
Oui.
Ils sont pas capables. C'est-à-dire qu'il veut, il veut essayer de gouverner pour tout le monde. Il veut essayer d'être au-dessus de tout le monde. Il y a une hypothèse qu'il veut peut-être essayer de faire, qui est très dangereuse, qui est d'essayer de prendre des gens dans chaque parti pour former un gouvernement. Ça a déjà été fait dans d'autres pays, notamment au Japon, au début du 20e siècle.
Okay.
Et ça a débouché sur, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que, la population ça a discrédité énormément les élus parce que, il y a eu des problèmes de corruption, parce que les élus étaient trop attachés à certaines compagnies, et ça a débouché ça sur le totalitarisme. Parce que finalement, on n'avait plus confiance en aucun élu, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'opposition. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de recette. Je ne sais pas s'il va vraiment aller par là. On a un peu l'impression qu'il veut faire quelque chose de similaire.
Mais
j'espère que non.
L'histoire, en tout cas, est là pour nous enseigner. Merci, mon cher Loïc. C'est toujours intéressant.
Oui.
À très bientôt.
Au revoir.
Bye-bye. Loïc Tassier, expert en politique internationale avec qui on jase ponctuellement ici dans Debout les comiques.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
J'ai les 2 yeux un peu au beurre noir et le nez enflé.
Ben oui.
On le confirme, là. C'est assez saisissant ce matin.
J'aimerais vous dire que je me suis fait ça dans mon premier combat de UFC, ou en empêchant un braquage, ou en faisant une blague sur la femme de Will Smith, mais non! Moi, dans mon spectacle, pour finir un de mes gags, je me tape 2 fois dans le front.
Ben non.
Une tape pas trop forte, mais assez pour que ça fasse un petit bruit. Mardi passé, à Terrebonne, mon petit doigt est arrivé sur l'os de mon nez et je me suis moi-même pété le nez. Je sais pas s'il est cassé, je sais pas si j'ai juste comme amoché le cartilage, mais à la question « Billy, t'es-tu déjà battu? » La réponse est oui, avec moi-même, et j'ai perdu. Je suis, à moi tout seul, le scénario du film Fight Club.
Mais ça.
J'ai passé la fin de semaine à avoir mal, le cœur me bat dans le nez. En plus, j'ai des allergies saisonnières, dont dès que je me mouche ou j'éternue, c'est douloureux.
Oh.
Le noir dans le coin de mes yeux, c'est pas si pire parce qu'il paraît pas trop, je suis cerné. Mais le nez est vraiment enflé, là. Vous confirmez.
Il y a comme une ligne sur ton nez, là.
J'ai l'air d'un lion. En fait, c'est comme si j'avais eu trop de Botox, mais sans le plaisir d'animer un show à Canal Vie.
Non, mais
c'est
con.
Niché.
Mais pourquoi je me suis fait ça? J'ai pourtant l'expérience avec mon corps. Je sais où sont les choses. Ça fait quelques années que je joue avec, là.
Ouais.
Mais pourquoi je me blesse constamment comme ça? Je me barre le dos en toussant, je me casse un ongle d'orteil dans un cadre de porte, me suis infecté un œil avec un poil de barbe en me rasant parce qu'il revolait dans mon œil. J'ai eu une écharde à cause d'une épice dans une gencive en mangeant un tartare. Pourquoi? Il y en a qui payent des fortunes pour faire des sports extrêmes en risquant leur vie. Moi, je me lève le matin. C'est ça, mon sport extrême. Et chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ah ouais, ben il y a juste toi à qui ça peut arriver, hein? Classique tellier. » Et hier, je me sentais seul. J'ai donc demandé à des gens sur ma page Facebook s'il y en avait d'autres qui avaient tendance à se blesser eux-mêmes. Et non, je ne suis pas seul. Je veux saluer Nancy Guibeau, qui s'est faite une commotion en se fermant la porte de son coffre de VUS sur la tête. Saluer Yannick et Erika Corbeil, qui ont déjà marché sur un râteau. Marc-Antoine Blais, qui s'est brisé les palettes avec son propre marteau. Hugo Meunier, qui vendredi dernier, en préparant les filets mignons pour le barbecue, s'est échappé la seringue qui sert à injecter le cognac direct dans l'orteil. Marie-Josée, qui s'est assise sur un cactus qu'elle avait elle-même mis sur la chaise et a oublié. Mélanie Saint-Onge, Cat Bissonnette, Suzanne Boucher, qui ont confondu goutte pour les yeux et colle à ongles.
Non.
Geneviève Rochon, qui en voulant couper son bagel, a mis son pouce dans le trou du milieu pour mieux le tenir. Marie-Lou Harvey, qui s'est faite des patates hash brown dans le toaster, mais qui, pour pas se brûler les doigts, a décidé d'aller les chercher avec sa bouche et s'est brûlé les lèvres sur le toaster.
Mais voyons donc!
Yannick Coursol, qui a éternué pendant qu'il conduisait et qui s'est fracturé le bras gauche dans un accident de la route. Jessica Michaud, qui, en sortant de la douche, a décidé de trier ses papiers qui traînaient sur son lit et s'est paper-coté le mamelon. Oui! Je vous lève mon verre, à vous, les maladroits. Mais avant de le boire, je regarde s'il y a une paille dedans, parce que je veux pas me rentrer ça dans l'œil.
Nos actes manqués. Nos actes manqués.
Le podcast Debout les comiques.
Ce monde a été inspiré par quelque chose qui t'est arrivé. T'as mis le feu à la toile hier.
J'ai posé ma question sur ma page Facebook. Pour commencer, parce que je me sentais vraiment ça, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes déjà blessé vous-même? Est-ce que je suis le seul niaiseux à qui ça arrive tout le temps? Écoute, j'ai plus de 1000 commentaires. Après ça, on a reposé la question sur le Facebook de C'est quoi? On est rendu à 700 commentaires. Ça n'a pas de bon sens à quel point les gens ont des histoires de blessures, mais à eux-mêmes. Même sur la texto, là, ça commence déjà à débouler. C'est la question qu'on vous pose ce matin.
Ben, lance-la la question.
Quelle blessure tu t'es infligé toi-même de façon vraiment stupide ou niaiseuse?
Ça nous est tous déjà arrivé. Vous allez donc nous téléphoner 790, c'est quoi? 790-2564, le texto 96-9-96-9. Tu viens de le dire, Billy.
Il y a moins d'une minute. Avant même que tu poses la question, Billy, il y avait Uziel qui nous a écrit sur la messagerie texte. Il dit, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Je travaille au bloc opératoire à l'hôpital Notre-Dame et presque tous les jours dans les salles d'opération où je suis, on entend « Ouch! » Tout le monde dit « C'est Uziel, il s'est encore blessé lui-même. » Ça y arrive tous les jours.
Alex Lamoureux qui a réagi aussi. Alex Lamoureux, lui, il travaille dans le domaine de la construction. Il dit « Je me suis déjà coincé la tête par moi-même dans un plafond. »
Non,
plus être capable de sortir du plafond parce que ma tête est coincée
donc
là-dedans. C'est très, très
Zoé Lamontagne qui, en voulant chasser un papillon, était devant son frigidaire à la porte ouverte, puis un papillon qui est passé, fait qu'elle a voulu l'enlever, l'attraper, elle s'est cassé le doigt, sa porte de son frigidaire, parce que, à cause d'un papillon. Et,
voyons donc.
Il y a Mélanie Tison qui dit, moi, mon copain s'est mordu la langue en mangeant une pizza tellement fort qu'il a dû avoir des points de suture.
Non! Excuse-moi.
Ben moi, me fendre en dedans, peut-être pas à ce point-là, mais me mordre dans la bouche, c'est un classique, moi, dans ma vie. On
mais
dirait
des
même
points
que...
de suture non, dans pas la point-là. Langue.
Ouch. Pas à ce point-là, mais tantôt, tu parlais dans ton petit monde de quelqu'un qui s'est pété palette avec un marteau.
Ouais.
Moi, je me suis pété le front avec les oreilles du marteau.
Non!
Jeune, ben, en apprenant à clouer, vraiment, j'avais la face au-dessus, puis le marteau m'a reculé dans le front, mais fendu, saigné.
Ah, je vois encore la cicatrice, je pensais que c'était une lobotomie.
Et il faut que je vous parle de Pamela Boily au retour, ça m'a vraiment fait rire quand je l'ai lu.
Ouais. Gênez-vous pas donc pour nous téléphoner et nous texter la blessure niaiseuse que tu t'es toi-même infligée.
Ça implique un cappuccino glacé.
Okay.
Le podcast Debout les comiques.
Je l'admets, j'ai parfois des petits enjeux au niveau de la colère. Pour me calmer, je passe mes fins de semaine en retraite fermée à Bordeaux. Heureusement, je me ressens grâce au bouddhisme. Ce matin, je vous montre le positif dans différentes situations. Okay. Voici Tammy Yin Yang. Oh, ça m'emmerde de faire du jogging pour être en forme. Bonne nouvelle, si je meurs plus jeune, ça veut dire moins de jogging.
Ouais.
C'est vrai. Oh, je me suis fait prendre par la pluie. Enfin, après 19 ans de vie de couple, c'est pas par mon chum que je me suis fait prendre.
Alors, changement.
Ah non, le chanteur de mon groupe préféré est mort et enterré. Ah, c'est pas grave, c'est toujours plus cool, la musique underground. Ah, j'ai ouvert mon barbecue ce printemps, puis les grilles sont pleines de moisies. Bof, manger un morceau de viande avec un petit peu de verre, ça a jamais tué aucun humoriste en tournée, ça? Oh, j'en reviens pas, j'ai réussi à tuer un cactus! À 300 pieds de distance, avec un coup de 12, bullseye! Il y a un troisième testicule qui a poussé à mon chat.
Ah ouais?
Ah, il va pouvoir se faire commanditer par les trois amis gosses. Ah non, ma fille est possédée par l'esprit du démon!
Ben voyons ça.
Ça doit être l'esprit du démon blond parce qu'elle est rendue avec une christie slapshot au bout de la palette. Ah, oh, j'ai engraissé parce que je mange trop de pain. Maintenant, je comprends l'expression « un pain in the ass ».
Non, c'est... Non, non. C'est pas ça. Oui, mais non. Mais oui.
Ah non, le petit voisin s'est noyé dans ma piscine.
Ben voyons. Ben, c'est quoi cette prémisse-là?
Ah, plus besoin de m'acheter un matelas gonflable pour déposer mon drink.
Ben non!
Ben voyons!
Ben voyons, c'est quoi ça? Non, je crois pas, non.
Ben non, non.
Et finalement... Ben oh, mon chum est fâché parce que j'y ai divulgaché la fin de District 31. En même temps, je veux-tu vraiment sortir avec un gars qui dit « divulgaché »
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.